64 secondes sont nécessaires pour se concentrer à nouveau après la réception d'un mail. Il est pourtant essentiel de ne pas devenir l'esclave de sa boîte de réception pour réaliser les tâches de la journée. Or, quelques clics suffisent pour éviter ces maudites notifications envoyées par Outlook sur votre PC. Tout d'abord, rendez-vous dans la rubrique « Fichiers » du logiciel de messagerie. Cliquez sur « Options », puis « Courrier » et décochez la case « Afficher une alerte sur le bureau » qui est sous le libellé « Réception de messages ». Et voilà, vous ne serez plus interrompu toutes les 5 minutes par un nouveau mail et vous préserverez votre niveau de concentration. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous donne rendez-vous dans la partie 2 de mon livre « Self Manager » paru aux éditions Erol. Vous pouvez retrouver les liens en description de cet épisode. Passons maintenant au nouveau numéro d'Azap. Salut à tous, un nouvel épisode d'Azap cette semaine en format chronique, donc avec ma camarade Carole Stromboni, Jérôme et Mise, une nouvelle venue qui nous vient du Canada. Et je vous invite à écouter cet épisode autour d'un sujet d'actualité qui est la santé mentale. Alors vous allez voir que ma chronique, j'étais obligé de la réenregistrer parce que j'ai eu un petit problème à la fois d'élocution, on va dire, pendant l'enregistrement initial et de son. Et donc voilà, j'ai préféré la réenregistrer pour que ce soit plus agréable à écouter. Voilà, je vous laisse avec mes camarades et moi-même pour ce nouvel épisode d'Azap.
Bonjour, la francophonie des podcasts est ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode. Ce thème aujourd'hui, c'est comment préserver sa santé mentale et celle de ses équipes en entreprise. Alors, nous avons toujours les mêmes chroniqueurs que la dernière fois. Mise Rabé-Manan-Jara pour la transformation agile, Jérôme Salard pour tout ce qui est coach de transformation personnelle et d'équipe, Alexandre Zermati sur le self-management et Carole Stromboni, donc moi-même, sur l'innovation. Donc voilà, je suis Madame Loyal, votre maîtresse de cérémonie cette fois-ci, pour faire suite à Jérôme. On a décidé de tourner, et puis j'avoue, ça me titille un peu d'animer cet épisode avec vous. Alors, je vais vous donner un peu la parole pour vous nous présenter vos chroniques avant qu'on se lance. Mise, de quoi vas-tu nous parler ?
Alors moi, je me suis inspirée de Guillaume Meurice, hein, puisqu'on a dit qu'on faisait quelque chose qui s'inspirait de Par Jupiter. J'aime bien son format avec les micro-trottoirs. Alors, on s'en est inventé un avec des collègues. Et je vais vous présenter ça tout à l'heure.
Génial. Et toi, Jérôme, de quoi vas-tu nous parler sur cet épisode de santé mentale ?
Eh ben moi, je vais vous parler de l'impact de notre réaction, de nos réactions à ce qui nous arrive dans la vie et qui fait que nous générons une partie de notre stress et quelle est peut-être la façon de s'en sortir. Et c'est assez important pour les dirigeants et les dirigeantes d'avoir ça à l'esprit pour eux-mêmes, se libérer de leur stress et libérer leur santé.
Ouais, surtout en ce moment, c'est très juste. Et Alexandre, oui. De quoi vas-tu nous parler ?
Écoute, je vais te parler de ce que les bipèdes font de mieux, c'est-à-dire la marche.
Ah, la marche, excellent. Oui. Et moi, je vous parlerai aussi, puisque j'ai plein de casquettes, comme Jérôme les dernières fois, de barrières.
Suspense. Ah. Chaud, ça.
Suspense.
Alors, allons-y avec Mise pour cette chronique inspirée de Guillaume Meurice.
Alors, vous vous doutez bien qu'en ce moment, les micro-trottoirs, c'est pas forcément ce qui a le plus de succès. Donc, comme je prends des cours à l'École nationale de l'humour avec des amis, Cathy Lefebvre et Lynn, on s'est inspiré de Guillaume Meurice pour vous concocter un micro-trottoir. Donc, c'est notre première édition. J'espère que ça va vous plaire, on l'a fait pour dénoncer et s'amuser. Ouais, comment ça va la santé mentale, les amis ? Je vous demande parce que je m'inquiète du redémarrage de l'économie du pays. Déjà, avant la Covid, l'OMS avait prévu que la santé mentale serait le problème de société en 2020. Et depuis, on s'est fait interner dans notre vraie vie. Pas de cinéma, pas de théâtre, pas de boîte de nuit. Que ta famille proche, en fait ! Si on n'était pas fou avant ça, bah là, franchement, c'est bon, on l'est. Au travail, ça représente 50% des absences. Et elles sont plus longues, et on n'oublie pas non plus les autres symptômes. Présentéisme, anxiété, dépression, suicide. Hier, c'était le salon de l'emploi au complexe Desjardins à Montréal. Eh bien, je suis allée voir le PDG d'une PME. Combien de personnes voulez-vous recruter ?
50% de mes ressources.
50%, c'est beaucoup. Vous connaissez les raisons de leur départ ?
Non, je ne comprends pas. Pas de cassage de tête. Je leur disais tous les matins ce qu'ils devaient faire. Aucun stress à subir. Je prenais toutes les décisions pour eux.
Les troubles de santé mentale, ça vous dit quelque chose ?
Oui. Je fais attention à l'embauche. Je prends pas de tarés. Si les RH ont mal filtré, je les vire.
Face à ce léger déni des employeurs, plus de 50% des collaborateurs ont prévu de quitter leur boss ou se posent la question « Est-ce que je le fais ?» Et ils sont beaucoup plus nombreux chez les milléniaux. Ah ben tiens, justement, voilà une milléniale devant le bureau du cannabis. Note pour nos auditeurs français, la consommation du cannabis est légale au Canada et on peut s'en procurer à la SQDC. Bonjour mademoiselle, vous venez postuler à la SQDC ? Quel type de compétences faut-il pour travailler ici ?
Ben, pendant le confinement, mon boss nous micromanageait tellement que j'ai décidé de faire des études en autodidacte pour devenir une experte des 50 saveurs d'indica et de sativa.
Pendant la période de la COVID, la consommation d'alcool et de cannabis a augmenté au Québec d'environ 15% déclaré. Au Canada, nous sommes encore loin du taux de chômage d'avant la COVID, 10% contre 5,6%, sauf pour les minorités visibles, les Noirs et les Arabes. Pour eux, c'est pire. On approche les 18%. Les plus touchés, bien sûr, ce sont les femmes. Au Québec, les pertes d'emploi les concernent à 70%. En même temps, c'est pas celle qui coûtait le plus cher. Allons voir la dame qui remplit un dossier au stand d'une agence de placement.
Moi, je travaillais dans l'hôtellerie et là, je peux gagner le double du salaire minimum pour 140 appels par jour de clients heureux de leur confinement et ce, avec le sourire.
Et passer de l'entrepreneuriat de l'hôtellerie à une plateforme téléphonique, est-ce que vous ne risquez pas de vous ennuyer ?
Je refuse de réfléchir. La dernière fois, j'ai essayé sur les consignes sanitaires. Je me suis fait une crampe au cerveau.
Les troubles de santé mentale, ça n'arrive pas qu'aux autres, surtout en temps de Covid. Insomnie, dépression, crise d'anxiété. Certains employeurs ont des programmes d'aide aux employés. Pour ceux qui n'en ont pas encore, sachez qu'investir dans le traitement de la santé mentale, c'est un des meilleurs placements aujourd'hui. Le retour sur investissement est de 5 pour 1 selon l'OMS. Les troubles de santé mentale, c'est bien d'en guérir, mais comme la Covid, c'est encore mieux de ne pas les attraper.
Bravo.
Est-ce qu'il y a des réactions, des questions par rapport à ce qui vient d'être joué pour nous ?
Oui, il y avait pas mal de stats hein, quand même. Hein.
Ouais.
Donc, j'en ai noté quelques-unes. Sur les 70%, c'était quoi déjà ?
70% des emplois perdus sont des emplois de femmes.
Okay. D'accord.
Ah, mais elle coûte moins cher, donc on devrait plutôt virer les hommes. Je comprends.
C'est exactement
pas.
Ça.
Ah, bien vu, bien vu. Deux tiers des smicards sont des femmes en France et c'est à peu près pareil au Canada.
Ah.
C'est vrai qu'elles coûtent pas très cher. Elles sont souvent autopartielles en plus. Subies. Ok, génial. D'autres remarques avant qu'on passe à notre rubrique tour des citations ? Non,
ouais, c'est... Moi, je suis frappé par la question de l'alcool et la question du cannabis. Parce que je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus et que tout ça, c'est évidemment caché sous silence et que ça a un impact direct sur la santé mentale, quoi, l'addiction. Enfin, il y a quelque chose autour de cela qui n'est pas du tout évoqué, nulle part d'ailleurs. Donc, merci Miss d'avoir mis ça en avant. Ouais.
Ouais, et je vous en prie. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que ce sont les femmes surtout qui déclarent qu'il y a eu plus 15% de consommation et les hommes sont plutôt à la moitié. Mais la file d'attente hein, devant le SQDC pour le cannabis et la SAQ pour l'alcool, et ben, elles n'arrêtent pas d'enfler en fait. Elles sont toujours aussi longues.
Bon, la prochaine fois, on fait un apéro. Je vous rappelle qu'on avait dit le prochain apéro hein, lors du dernier podcast.
Ouais. Je crois qu'on a perdu sur le pari là.
Ouais, on a perdu, on fera un petit bilan des paris pour voir qui a gagné à quel voyage ou c'est pas sûr que sur l'apéro on ait gagné grand chose.
Je crois que c'est moi parce que j'avais demandé si c'était le... Moi j'avais parié sur le dernier confinement de 2020. Donc,
Ok.
Bon, écoute, c'est super. Alors, effectivement, c'est un vrai sujet. C'est voilà, la première chronique a montré ce que c'était, hein, la réalité de ça. En réalité, moi, ce que je veux partager, c'est la notion de santé mentale qui se travaille de l'intérieur. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on a des problèmes ? Alors, pourquoi est-ce qu'on a des problèmes ? On a des problèmes parce qu'on a un désir de quelque chose et qui rencontre un obstacle. Et vous remarquerez probablement qu'assez souvent, le désir, c'est quelque chose qui vient de vous. Alors parfois, c'est sollicité par la société qui vous dit « achetez ci, achetez ça, machin ». Mais vous avez un désir de faire quelque chose, un désir d'être quelqu'un. Et puis à côté, vous avez l'obstacle. L'obstacle qui est que vous ne pouvez pas exprimer votre créativité, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas aller là où vous voulez. Et dans l'entreprise, l'obstacle, c'est le système. Et quand le système est bloqué, eh bien, ça ne peut pas marcher et on tombe dans ces situations de santé mentale telles que tu nous as écrites. Donc, on en arrive à la responsabilité du dirigeant ou de la dirigeant, parce que c'est lui qui doit au premier libérer l'espace pour que ça puisse fonctionner. Et donc, j'en reviens à mon dada, vous l'avez remarqué, c'est toujours que c'est d'abord le travail intérieur que nous faisons qui permet de changer le monde. Et donc, les dirigeants aujourd'hui et les dirigeantes, elles doivent vraiment se positionner par rapport à cette libération. Et je voudrais rappeler que Taizen Deshimaru dit très bien que la méditation, par exemple, c'est une libération de l'esprit, c'est l'éveil. Que la position zazen, c'est la posture elle-même de la position zazen, et satori, c'est l'éveil. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que moi, je recommande à tous les managers, les manageuses, les dirigeantes, les dirigeants et chacun de nous, eh bien, de commencer dès maintenant à faire une méditation zazen. Donc de se mettre avec un petit coussin pour avoir une posture parfaite et pour aller tout simplement laisser les choses faire. Laisser le monde se déconnecter du mental, parce que c'est le mental qui nous poursuit. Et le thème de notre chronique, c'est santé mentale. Et c'est intéressant, c'est que plus il y a de mental, plus c'est difficile d'être en bonne santé. Et donc, en fait, pour libérer le mental, c'est le chemin que je propose, c'est le chemin de la méditation zazen. Et d'arriver à cette conclusion, j'essaie de faire assez court, qui est d'inverser la phrase de Descartes qui est dit « je pense ». Qui devrait être « je pense, donc je ne suis pas, je suis, donc je ne pense pas ». Et de faire de la méditation zazen, c'est de se retrouver dans l'état d'être. Et l'être absolu qui n'a plus rien, et qui est son environnement, qui est le monde dans lequel il est, eh bien, cet être-là ne pense pas. Donc il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème de pression mentale, d'action mentale, et donc la santé ne peut que fonctionner. Voilà. C'était un petit peu ce que je voulais vous partager. Je suis parti peut-être dans un certain délire, mais je trouve que c'est un angle d'attaque pour ne pas tomber dans ce délire actuel qui nous met la peur partout, qui nous met la pression partout, qui nous met des obstacles partout. Et donc, c'est de revenir à sa première liberté intérieure, qui est d'être point.
Bon, en tout cas, moi, ça me donne envie de méditer, ce que je n'ai jamais fait de ma vie. Mais pour le coup, c'est séduisant comme objectif, on va dire.
Merci.
Merci pour ce partage. Moi, j'étais complètement d'accord sur le début de la chronique. Et je me dis, il manque une petite partie à la fin. C'est top, la méditation. Mais si après, ça a pour conséquence de modifier l'environnement dans lequel les personnes évoluent. Puisque cet environnement, il est créé par le manager, par le dirigeant. Si lui, il se sent bien avec lui-même, tant mieux. Mais ce serait bien si les personnes qui font partie de ses équipes le sont aussi. Et donc, s'ils pouvaient changer cet environnement, pour eux, ce serait, je trouve, plus intéressant.
Alors, c'est très, 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 très intéressant. C'est qu'à partir du moment où on est dans cette notion de lâcher prise, en fait, il arrive quelque chose. Et le Swami Prajnapada, qui est un de mes grands maîtres, a dit une phrase qui est « let go and go with ». Donc, laisser aller ou lâcher prise et aller avec. Et en fait, plus tu lâches prise, plus tu es en contact avec l'être tel que tu es, plus la vie va s'organiser autour de toi et tu vas l'organiser autour de toi pour qu'elle soit ce qu'elle doit être. Et si l'on est bien d'accord que l'hypothèse de base, c'est que quand on est EST, hein, quand on est EST, eh bien, on est connecté avec le monde, on est connecté avec la vie, on est connecté avec tout. Dès lors, les choses adviennent dans le sens qui fait que si un de tes collaborateurs est en difficulté ou en souffrance, tout de suite, tu vas le voir. Et tout de suite, tu vas l'accueillir. tout de suite, tu vas tu vas t'en occuper. C'est vraiment un changement de façon de regarder. C'est pas le micro-contrôle dont tu parlais dans ta chronique tout à l'heure. C'est l'inverse, justement. Et ça libère la créativité, ça libère les choses. Tu laisses les choses advenir, en fait.
Oui, parce que ça te transforme toi-même et t'es plus, tu peux accueillir les choses et tu vois les choses différemment. Moi,
est-ce qu'il y a de l'action à un moment ? C'est ça que j'entends pas, en fait. Est-ce qu'il y a de l'action ? Est-ce qu'il y a un changement du cadre ou pas ?
Mais non, mais c'est merveilleux.
Pardon, ça, Carole.
C'est le livre du Tao. Attends, je vais te retrouver la citation. Vas-y, Carole, je vais te donner la citation après. Vas-y.
Ouais. Ben, j'en profite parce que moi, en fin janvier, je suis intervenue avec François Dupuis, qui est un sociologue des organisations. On a eu un échange sur innovation et management. Et lui, il a une vision qui est propre à la sociologie des organisations, qui est très riche et qui apporte beaucoup. Et moi, j'en avais une autre. Et j'ai commencé un peu mon intervention. J'aimerais le redire ici parce que je trouve que ça a beaucoup de sens. Et c'est vraiment dans l'esprit de ce podcast. Et qu'on vit un peu tous dans une forme de pénombre. Je revisite un peu la caverne de Platon, mais... Et finalement, tout ce qu'on est en train de se dire, nos points de vue, ça nous éclaire. On a une nouvelle lampe torche qui éclaire mieux, qui éclaire différemment. Moi, ce que j'entends ici, c'est la diversité des points de vue et des expériences personnelles. Et je trouve que c'est ça qui est très riche. Et je vais repasser la parole, évidemment, à Jérôme. Mais personne ne détient finalement une vérité universelle. Enfin, on va dire que non. Et je trouve que c'est intéressant. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir cette diversité. Et on voit que... Voilà, moi, j'ai eu le plaisir de vous choisir tous pour intervenir et que vous avez aussi choisi parce que vous êtes des personnes très différentes, avec une vision du monde très différente et ça apporte beaucoup de richesse. Et j'espère que ça éclaire nos auditeurs et nos auditrices parce que c'est un peu ce que ça m'évoque moi et je trouve ça vraiment intéressant de ne pas être dans un truc unilatéral, facile, qui manque de subtilité, quoi. Je trouve que là, on touche des sujets importants avec notre propre expérience. Voilà.
Ouais, le but, c'est notre intelligence. On est d'accord, hein.
Pardon ?
Comment ?
Le but, c'est pas d'arriver à un consensus, hein.
Ce serait idéal, mais je trouve que sur des sujets profonds comme ça, ça mérite du temps, quoi, et puis des échanges.
Moi, je travaille beaucoup avec les approches de Mindel sur le process work, qui dit qu'il vaut mieux arriver à un bon désaccord bien clair que d'arriver à un consensus mou, hein. Ouais. Je trouve ça c'est très intéressant. C'est lui qui m'a appris tout le travail entre le travail intérieur et le travail extérieur. C'est que le inner work et ce qu'on vit à l'intérieur de nous, c'est se reproduit dans les conflits extérieurs que nous avons dans le monde. Cela étant dit, mise excellente remarque, bien sûr. Le lâcher prise interdit-il l'action ? Pas du tout. Au contraire. Et en fait, Swami Prajnapada toujours dit intérieurement être activement passif, extérieurement être passivement actif. Et c'est vraiment intéressant. C'est comment ?
Je comprends pas le passivement actif. Tu peux.
Et bien justement, le passivement actif, c'est l'exemple qui est cité par Arnaud Desjardins, qui est un des élèves de Prajnapada, c'est qu'effectivement, c'est tu es dans une course de canoë, et ben tu es intérieurement en état de méditation, mais tu es en active méditation pour être activement passif. Mais à l'extérieur, tu es passivement actif, c'est-à-dire tu prends les choses telles qu'elles viennent. Alors que si tu es stressé à l'intérieur, à l'extérieur, tu vas plus savoir quelles bonnes actions tu fais et tu vas faire de mauvaises actions. Parce que de toute façon, la vie, c'est l'action. Nous sommes tout le temps dans l'action. Et donc, c'est peut-être là-dessus qu'il faut que cette idée du manager qui travaille sur lui pour pouvoir libérer les autres, c'est peut-être là-dessus qu'il faut justement que le manager ou la manageuse travaille. Et moi, je veux bien les aider, bien sûr.
Merci pour la clarification, Jérôme.
Génial, merci beaucoup. Est-ce qu'Alexandre avait quelque chose à ajouter avant qu'on passe à la prochaine rubrique ?
Non, ça me rappelait juste j'ai reçu dans mon podcast un invité qui s'appelle Thomas Dansbourg, peut-être que vous le connaissez.
Ah oui, c'est lui.
Et il avait ce concept de douche psychologique le matin, je trouvais ça intéressant, ça rejoignait un peu ce que tu disais. Finalement, se réinterroger sur ses... Alors peut-être pas, parce que du coup, ça nécessite un effort de pensée, mais en tout cas, de se réinterroger sur soi, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on est, et de prendre le temps chaque matin de bien se réinterroger là-dessus pour être le plus clair possible avec les autres, quoi, quelque part. Et pas rentrer en communication violente.
Oui, bien sûr.
Au contraire, en communication non violente. Donc, voilà. J'en profite et j'invite d'ailleurs les auditeurs de ce podcast à se replonger sur un des épisodes les plus populaires d'Azap, d'ailleurs.
Je le souhaite. Bravo. Soutien total et entier.
Merci. Excellent. Ouais, merci, Alexandre. On avait une rubrique avant de passer à la prochaine chronique sur l'outil du jour, puisque vous savez, on essaie de vous outiller dans l'état d'esprit et puis aussi dans les techniques. Est-ce que quelqu'un a un outil à partager lié au sujet de la santé mentale en entreprise ? Donc, on a parlé méditation, qui pourrait être envisagée comme telle, mais Zazen. Pas vraiment.
Zazen.
Zazen. Où est-ce qu'on trouve des ressources sur Zazen, Jérôme ?
Il y a plus quelques sites, s'il suffit de taper méditation zazen, il y a 2-3 sites qui sont super bien faits, je pourrais retrouver les noms.
Ok, super.
Ben moi, ça va ressembler à de l'autopromotion, mais je suis en train de développer un outil qui s'appelle la boussole du manager qui voulait devenir plus agile, pour justement permettre au manager de prendre du recul et de décider des actions qu'ils veulent mener en cohérence avec ce qu'ils veulent créer.
Et Carole, la parole est à toi. Merci Carole. Alors, troisième chronique. Et encore une fois, cette image de la pénombre où chacun éclaire avec sa propre énergie. Alors, quand j'étais manager, une personne de mon équipe est entrée dans mon bureau un matin en pleurs. J'étais un peu décontenancée. Je l'ai laissée se calmer et elle m'a dit que son copain l'avait larguée. Ça m'était arrivé au début de ma carrière, quasiment la même scène. Je me revois encore dans le bureau de mon manager de l'époque, un assez vieux monsieur aux cheveux blancs. Et donc, il m'avait écouté, j'avais été émue et tout. Et il m'avait dit, Carole, il faut s'accrocher à la barrière. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir dire grand-chose. C'est quoi la barrière? S'accrocher à quoi? Pourquoi faire? Ne pas tomber? On n'est pas dans les champs? Enfin bref. Mais c'était empreint de gentillesse et puis ça m'a marqué. Et donc, sans le vouloir, je revis une scène où j'ai le rôle opposé, enfin, de l'autre côté de la table, on va dire, et je lui dis ça. Bon, je ne sais pas si ça l'a aidé, mais elle s'en est remise, et elle a dû s'accrocher à la barrière. Le rapport avec la santé mentale, du coup, me direz-vous, c'est une excellente question, parce que ça pose la question de c'est quoi la santé mentale? Donc, on l'a un peu abordé au préalable. Moi, je suis allée voir l'Institut du cerveau, qui nous dit qu'en France, les troubles psychiatriques touche plus d'un adulte sur 4, soit 27% de la population française. Franchement, je trouve ça très significatif. Je ne savais pas que c'était autant. Et les troubles les plus fréquemment rencontrés dans la population sont la dépression, les troubles bipolaires, la schizophrénie, les troubles anxieux et les addictions. Donc tout ça, c'est un vaste périmètre finalement de symptômes d'une santé mentale qui n'est pas en très bonne santé, quoi. Bon, on rigole pas trop là, c'est moins fun tout de suite. Et surtout que plus ça va et plus je connais des personnes qui en souffrent. Et dans ce monde du Covid, j'aurais bien aimé dire post-Covid, mais bon, on n'y est toujours pas. On y est toujours, voilà. Le Covid s'accroche, il mute. Bref, lui, il sait que il s'accroche à la barrière, quoi. Il veut pas nous quitter. Et ça a des conséquences. Donc, je me souviens, je parlais de l'augmentation des suicides en juin 2020 dans mon kit de résilience pour survivre face à la crise pour les entreprises, dans lequel Jérôme était intervenu. Et je me souviens, Jérôme, tu m'avais dit que j'y allais un peu fort avec les suicides. Tu te rappelles ?
Tout à fait, je me rappelle très bien. Et tu vois, aujourd'hui, je ne te dirais pas du tout ça, parce que je te dirais que c'est un vrai problème. Et 40% des jeunes de 18 à 24 ans sont en difficulté en ce moment, au moment où on se parle. Donc, je suis très... Tu as raison, bravo. Tu étais en avance, comme d'habitude.
J'aurais bien aimé ne pas l'être sur ce sujet-là, mais... Mais effectivement, on voit que c'est un vrai sujet, donc c'est un sujet de société, mais c'est aussi un sujet qu'on retrouve puisque la société se reflète en entreprise. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui sont en dépression, en difficulté. Et donc, que faire en entreprise, puisque c'est le sujet de notre podcast. Moi, qu'est-ce que je vois dans les PME dont j'interview les PDG dans mon podcast? Déjà, la santé, c'est plutôt tabou en général, quelle qu'elle soit. Même, c'est interdit par la loi d'en parler. L'état de santé d'un salarié, ça relève de la sphère privée. Moi, quand j'ai des personnes qui étaient dans mon équipe malade, je n'aurais jamais demandé pourquoi. Ça doit venir d'elle-même si elle le souhaite. De même que quand cette personne est venue dans mon bureau, elle est venue d'elle-même, elle n'était pas du tout obligée de me le dire. Il y a une question du secret médical en France, et à raison, évidemment. Donc, dans le podcast, on en parle de façon détournée. Moi, j'aime bien, quand on parle de télétravail, moi, j'aime bien poser des questions concrètes sur comment les gens le vivent. On s'aperçoit de la responsabilité très forte du dirigeant. Donc là, on parle de PME, TPE, ETI, des entreprises à taille, entre guillemets, humaine. On voit l'importance de l'influence de la culture d'entreprise sur le niveau d'implication des gens, leur niveau de stress, leurs conditions de travail. Il y a des DG qui ont réouvert des locaux parce que chez soi, c'était impossible de travailler pour certaines personnes. Voilà. Concrètement, elles essaient de faciliter la vie de leurs salariés. Par exemple, j'ai interviewé Christine Bertrand, qui a une entreprise dans l'Est de la France avec des assistantes sociales. Elle ne croyait pas au télétravail. Et puis, le fait de le faire, d'être obligée, ça l'a convaincue. Elle a même dû un peu faire des vidéos pour ses équipes pour qu'elles travaillent moins, parce qu'elle sentait qu'il y avait des personnes qui étaient beaucoup trop impliquées. Elle leur a permis de revenir dans le bureau quand c'était possible, parce que c'était insoutenable à la maison. Voilà, moi, j'ai des travaux en ce moment. Vous ne l'entendez peut-être pas, mais il y a des bruits de marteau depuis le début du podcast en bruit de fond. J'espère que vous ne l'entendez pas. Donc, c'est un peu l'horreur. Et ces personnes, ces DG que j'interview, Moi, j'interviewe des gentils DG, en tout cas des personnes qui me donnent l'impression d'être gentilles et authentiquement concernées par le bien-être de leurs salariés. Il y en a d'autres qui parlent du scénario du pire. J'ai interviewé Guillaume Tostivin qui a digitalisé toute son offre de Serious Games. Et pour avoir un discours vraiment authentique avec ses équipes, pas juste en surface, ils ont imaginé le scénario du pire, qu'est-ce qui se passe si l'entreprise fait faillite, par exemple, pour essayer d'avoir quelque chose d'authentique et de ne pas laisser les gens dans leurs problèmes parce qu'ils oseraient pas, ces personnes-là n'oseraient pas en parler. Et donc, je pense que si on pouvait vraiment être authentique en entreprise, se dire les choses franchement et se parler avec beaucoup de bienveillance, sans juger tout de suite, sans chercher des solutions tout de suite, mais avec de l'empathie, de la véritable communication bienveillante, ouvrir les portes. Après, chacun est libre de faire comme il entend, évidemment. Mais à mon avis, ça irait mieux en entreprise. Et là, on aurait une vraie barrière à laquelle se raccrocher en entreprise. Et peut-être que la santé mentale, en tout cas dans la mesure où on peut agir dessus dans un monde professionnel, bah, ça irait mieux pour tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bravo. Ouais, j'avais envie de dire la même chose que Jérôme. Bravo. Complètement d'accord.
Ouais. Ouais. Moi, je suis un vrai bisounours. Bon, tant mieux si ça vous parle et que ça fait écho. Alexandre, tu voulais intervenir
Non, mais en fait, ça me fait encore penser. Désolé, hein, c'est peut-être la fixette du moment, mais ça me fait penser au concept, pardon, de communication non violente, quoi. Mm-hmm. À la fois être sincère, mais savoir faire passer les choses sans forcément se montrer. Pas agréable, quoi. Voilà, ouais. En résumé.
Donc, bah, moi, j'ai formé mon équipe à la communication non violente, ouais. Hein, quand j'étais manager pendant 2 jours avec une spécialiste. Et il y a une des personnes de mon équipe qui a pleuré, alors que c'était la personne la plus dure de mon équipe. Vraiment, une personne très forte professionnellement, mais assez dure. Et à un moment, elle a parlé de sa mère et elle a pleuré. Et franchement, moi, ça m'a vraiment émue. Et on a mieux compris pourquoi elle était comme ça aussi. Et ça crée des ruptures, en fait, quand les gens sont authentiques. On est toujours exigeant sur le travail, évidemment, et on les aide, mais je sais pas, ça crée une vraie relation humaine. Et aussi, la communication non violente, c'est aussi un rapport à soi-même. C'est très lié à la méditation, à mon sens. On essaie aussi de savoir qu'est-ce qu'on ressent. Et c'est en sachant aussi ce qu'on ressent, quels sont nos besoins, on peut être des meilleurs professionnels, managers ou collègues.
Hein. Ouais, puis on a souvent tendance à penser en personne, alors que je pense que beaucoup de problèmes en entreprise, c'est des problèmes de système aussi. Donc,
bien sûr.
Il faut aussi parler des systèmes et moins des personnes. Et quand on fait des conneries, bah voilà, hein, c'est la vie. Hein. Ouais. La vie, c'est une succession de conneries avec quelquefois des choses qui réussissent. Donc,
c'est l'inverse. Hein, c'est des choses qui réussissent et quelquefois des conneries.
Ça dépend du rapport. Ça dépend des gens.
50-50.
Ou c'est une étape nécessaire pour arriver à des réussites, j'en sais rien. Enfin, chacun le voit comme il le veut. Mais du coup, ça, je pense que c'est aussi une façon de le voir, de se dire, finalement, regardons ce qui tourne pas rond dans le système, et puis faisons la clarté là-dessus. Voilà. Je pense que c'est une bonne façon aussi de se parler normalement et de façon, vraie.
Ouais.
Et pour réussir à changer ce système, arriver à mieux communiquer en utilisant de la communication non violente, c'est important aussi.
Oui, c'est ça, oui.
Complètement.
C'est pas les personnes qui sont au centre, hein, curieusement, c'est plus le système. Et ça permet justement d'avoir de meilleures relations interpersonnelles, je dirais.
Oui, un jour, je vous parlerai des approches de Mindel et de toutes ces approches de process work. En fait, effectivement, il parle de, c'est très systémique comme approche, mais lui explique que quand je fais un travail de type réunion dynamique, en fait, nothing personal. Et en fait, il n'y a rien de personnel. En fait, ce ne sont pas les personnes qui sont en cause. C'est-à-dire, chaque individu est grand dans sa personne parce que c'est merveilleux d'être un être humain. Il n'y a rien de plus beau. Mais en fait, on prend des rôles. Et on prend des rôles, le rôle de celui qui emmerde tout le monde, le rôle de celui qui n'est pas sympa, le rôle de celui qui est dur. Non, c'est vache. Le rôle de celui qui fait le guignol, le rôle de celui qui fait l'intellectuel, tu vois. Et ces rôles-là, en fait, ils appartiennent au groupe. Et si c'est ça qu'il faut travailler. Et si tu arrives à travailler ça, et la communication non violente est effectivement un outil très intéressant pour démarrer sur ces trucs-là, là, on gagne quelque chose. Mais on en reparlera une autre fois, ça sera avec plaisir.
Ouais, l'approche systémique,
c'est des sujets qui sont bien traités, enfin qui sont traités, je ne sais pas s'ils sont bien traités, mais moi j'en ai des expériences plutôt positives dans tout ce qui est holacratie ou ce genre de choses où justement on parle de rôle et moins de personnes.
Ah, il y a un débat, hein. Je te rappelle qu'on a un débat, parce que moi je dis qu'il y a je dis que la hiérarchie étant cachée, il y a des jeux qui s'installent. Mais on en reparlera avec plaisir.
Ça, c'est l'organisation versus la structure de François Dupuis. Voilà, je l'ai relevé dans le managérial. Il faut qu'on se fera un épisode spécial.
Bon, allez, on se fait un podcast. Là, on est en train de partir sur le podcast.
Alors, On arrive bientôt à la chronique qu'Alex nous a teasée plusieurs fois sur la marche. Et avant ça, la rubrique liée au livre, un livre que vous recommandez. Je recommande Le complexe d'Icare, qui est un livre d'Olivier Lombard, qui parle du burn-out. Alors Olivier Lombard, moi je l'ai rencontré à HEC à une soirée du club spiritualité, pendant laquelle il présentait ses deux burn-out qu'il a fait, qui sont des burn-out émotionnels. Comment ça se somatise finalement dans le corps et dans l'esprit. Et il se trouve qu'aussi je suis allée le voir deux fois pour qu'il m'aide à être mieux dans mon corps et dans ma tête. Et donc c'est vraiment génial ce bouquin. Et si vous avez la flemme de lire, évidemment il y a un podcast dessus, dans Métamorphose, il résume un peu sa pensée sur le burn-out. Donc, moi je recommande vivement Olivier Lombard.
Super, j'aimerais bien avoir le lien pour pouvoir l'écouter, si tu peux, le mettre dans en commentaire.
Tout à fait.
Bah, du coup, je vais enchaîner. Alors, j'arrête pas de vous parler de CN, communication non violente, depuis tout à l'heure. Donc, voilà, vous pouvez lire Cessez d'être gentil, soyez vrai, de Thomas Dansbourg, voilà, qui est un best-seller en plus. Donc, voilà. Peut-être qu'il y a chacun pourra partager cette lecture avec d'autres gens qui l'ont lu. Voilà.
Moi, je vous proposerai le dernier ouvrage de Maria Montessori. L'esprit absorbant de l'enfant, bah oui, évidemment. Et je pense qu'il ne faut pas le lire juste une fois, tu vois, c'est le genre de livre, il faut le lire 40 fois pour bien tout comprendre, parce qu'il y a des ramifications dans tellement tous les sens, mais du coup, ça synthétise finalement tout ce qu'elle a pu créer et toute sa philosophie par rapport à la pédagogie Montessori.
Eh ben moi, je vais vous recommander un livre. Je crois que c'est la première fois que je le fais depuis qu'on a démarré nos podcasts. Eh bien, qui a été lancé il y a 10 ans, que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque, qui s'appelle Donner du sens à sa vie. C'est un collectif sous la direction de Marc De Smet et Patrick Van Hersel, où il y a une trentaine, je crois, de personnalités qui parlent et des personnalités qui sont vraiment dans le sens. Et Donner du sens à sa vie. Donc, il y a Jodorowsky, Taizen Deshimaru, il y a François Cheng, Comte Sponville, Desjardins, Edgar Morin. C'est absolument génial. Parce que c'est la première fois qu'il n'y a pas une école qui te propose de donner sens à ta vie en faisant du zazen, en faisant des guérisons psychomagiques de Jodorowsky. Mais il y en a 30, donc ça vaut le coup. Voilà, donc c'est... Protégez-vous.
Merci.
Protégez-vous avec ça.
Génial. Merci beaucoup. Eh bien, Alex, enfin, on attend avec impatience ta chronique.
Alex.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler de marche. Steve Jobs, Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, Barack Obama, fondateur de lui-même, Richard Branson, Sigmund Freud, Platon, Nietzsche et Aristote, et moi-même, nous avons tous un point commun, nous tenons nos réunions tout en nous baladant. Et oui, car le problème est que nos vies encouragent la sédentarité, encore plus aujourd'hui avec le confinement. Les effets bénéfiques de la marche sur notre corps sont pourtant bien connus. 15 minutes de balade par jour suffisent à tonifier les abdos, soulager le mal de dos et à remonter le moral. Mieux encore, la marche emballe le moteur de notre créativité, du fait d'une plus grande diversité de paysages qui stimule notre cerveau. À vous les fulgurances et les idées de génie. Mais il y a d'autres effets encore plus étonnants. Le fait de marcher ensemble brise les murs de la hiérarchie. C'est aussi, au-delà de cet aspect, la bonne façon de rapprocher des générations différentes ou des métiers différents. La marche neutralise certains freins liés aux différences et les minimise. Autre phénomène scientifiquement prouvé, le fait de se balader améliore le niveau d'énergie, le niveau de concentration ainsi que l'engagement des participants. L'Institut Max Planck de Berlin a d'ailleurs testé cette hypothèse avec des adultes et des enfants. Les groupes assis ont oublié plus de choses que les groupes qui marchaient. C'est tout le contraire d'une réunion où les participants attendent que ça se passe en traitant leur mail. Ce qui nous amène d'ailleurs à la cinquième raison, ou plutôt quatrième, je ne sais plus, celle de la sobriété numérique. Bah, dehors, il n'y a pas de PC et les smartphones, on peut les oublier et personne ne présente de slide pénible. La communication est donc d'une plus grande qualité et généralement la bonne humeur règne. Alors comme nous l'apprend un article du Psychology Today, inutile d'essayer les walking meetings, c'est leur petit nom en anglais, avec une dizaine de personnes. Ce type de réunion est à éviter pour les réunions dont l'objectif est de converger vers une solution unique ou un consensus. Oubliez-les également pour des réunions nécessitant un support ou un espace d'expression commun comme un tableau blanc par exemple. En revanche, c'est une modalité de réunion parfaite pour les échanges bilatéraux, notamment quand il s'agit d'être créatif et de diverger. Je finis avec une citation de Nietzsche, « Les seules pensées valables viennent en marchant ». Je vous invite à tenir votre prochaine réunion en vous baladant.
Donc moi, ça m'évoque un peu Sylvain Tesson, et je me disais qu'en écoutant Alexandre, il serait pas content, Sylvain Tesson, parce que pour lui, la marche, c'est un truc un peu sacré, personnel, et il est très anti-entreprise. Enfin, je caricature, mais je sais pas si vous aimez bien Sylvain Tesson.
Je connais pas.
Tu connais pas?
Non. Ok, je vais me le noter.
Bon, Mise, je t'offrirai un livre. Ok. Non, il est génial, j'ai lu tous ses livres. Il a traversé l'Himalaya à pied, il a fait des choses incroyables. Et j'adore lire ses chroniques, il est très anti-technologie et tout. Merci. Eh bien, on va conclure et on espère vous avoir un peu éclairé dans cette pénombre sur la santé mentale, vous avoir donné un peu quelques outils et quelques concepts. N'hésitez pas à réagir sur vos plateformes de streaming quand vous pouvez, sur nos réseaux sociaux. On sera ravis de continuer la conversation avec vous. À bientôt.
Et bravo pour la maîtresse de cérémonie. Moi, je dis bravo.